Bonjour et bienvenue à Europe & Roll sur Radio Fadjet pour une émission directe, spéciale, élection américaine. Au micro, Anne-Béatrice Videlot. Vous aussi alors, vous avez passé une bonne partie de la nuit scotché devant vos écrans de télévision ou devant vos ordinateurs? Et voilà, c'est définitif, Obama président. Débats, interviews, micro-trottoirs, tout tourne aujourd'hui autour des élections américaines. Vos journalistes d'Europe & Roll accueillent justement deux experts, François Laval, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur du premier cycle franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy. Et également sur le plateau d'Europe & Roll, Ronald Lindecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes américain, maître de conférences sur le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy et membre du chœur de l'Opéra de Nancy. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir débattre avec nous. En quelques mots, comment est-ce que vous avez passé la nuit? Une nuit blanche ou... Monsieur Laval?
Une nuit blanche, puisqu'avec les étudiants, nous avons suivi tout le processus électoral. Comme il y a 6 à 9 heures de décalage horaire entre les États-Unis et la France, donc c'était entre minuit et 6 heures du matin.
Eh ben, et vous, Ronald Lindecker?
Moi, j'ai passé la première partie de la nuit blanche sur le campus, mais comme j'avais cours à 8 heures du matin, je suis revenu vers 5h30 après avoir eu un SMS m'annonçant la réussite du candidat Obama.
Ah, ben voilà. Attachez vos ceintures, c'est parti pour les États-Unis. Mais avant, petite mise au point par Simon, notre flashman habituel. Alors Simon, c'était quoi la réaction des gouvernements européens et des marchés financiers?
Bonjour à tous, bonjour Anne-Béatrice. Donc évidemment, l'information numéro 1 de ce mercredi 5 novembre, c'est la victoire historique de Barack Obama dans la course à la présidence des États-Unis, puisque le sénateur métis de l'Illinois a remporté 338 grands électeurs contre seulement 133 à son rival républicain John McCain. Les démocrates ont donc fêté leur victoire toute la nuit, une victoire s'il en est très complète, puisque le parti démocrate remporte aussi une grande majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Les messages de félicitations venant de l'étranger se sont succédés depuis l'annonce des résultats. En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français ont tous deux salué une victoire historique et espèrent pouvoir construire un partenariat solide avec le nouveau président. D'Afrique également, les réactions enthousiastes ont été très nombreuses et il est d'augure de considérer l'élection d'Obama comme un message d'espoir. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement président, Barack Obama est déjà attendu sur des sujets urgents. Évidemment, la crise financière et l'Irak, ça n'attend pas. Et ce seront l'un des plus gros défis qui attend le nouveau président et qui, à partir de janvier, devra mettre en place ses premières politiques. La récession menace aux États-Unis et elle menace également de durer. On peut noter la réaction des bourses à l'élection de Barack Obama ce matin. Les bourses qui ont réagi de façon modérée à l'élection du candidat, puisque le dollar s'est certes apprécié, mais à la mi-journée, les bourses européennes étaient en faible baisse. Et pour en parler, et pour continuer à parler d'élection, on retrouve tout de suite l'émission spéciale avec Anne-Béatrice.
Merci Simon. Gaëlle, journaliste à Europe & Roll, nous a rejoint sur le plateau pour animer le débat. Bonjour Gaëlle.
Bonjour. Donc nous allons, avant d'analyser les résultats et les réactions, tout d'abord présenter le système électoral. Donc, Monsieur Laval, vous êtes professeur en institution politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement son fonctionnement et en quoi est-il différent d'une autre?
Alors c'est un système très particulier puisque l'année dernière nous avons eu l'élection présidentielle en France où tous les Français ont voté au suffrage universel direct. Aux États-Unis, c'est pas une élection présidentielle, c'est 50 élections présidentielles puisqu'il y a 50 États. On vote dans 50 États pour des listes de grands électeurs. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour Barack Obama ou pour McCain, on vote pour des listes de grands électeurs. Donc soit 3 grands électeurs dans les petits États, soit 55 grands électeurs dans les grands États comme la Californie. Et après on fait le total, il y a 538 grands électeurs dans l'ensemble des États-Unis et il faut avoir 270 grands électeurs pour être élu président.
D'accord, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi le président n'entrera en fonction qu'en janvier ?
Alors c'est le système américain, c'est lié à des explications historiques, c'est un pays rural, donc on vote, Election Day c'est le premier mardi de novembre, on désigne des grands électeurs, puis les grands électeurs se réunissent dans leurs états début décembre pour voter, puis début janvier le Congrès prononce donc officiellement les résultats et le 20 janvier le président nouvellement élu prend ses fonctions.
Très bien, je vous remercie, je laisse la parole à Anne-Béatrice.
Et aux États-Unis, comment s'est passée la nuit électorale? Ce matin, Laura a joint John Hamnett de Boston. Écoutez.
Bonjour John Hamnett.
Bonjour.
Tu travailles dans une entreprise d'ingénieurs? Comment est-ce que tu as passé cette nuit électorale?
J'ai voté chez mes parents parce que je suis en Venezuela. Et après, j'ai regardé les premiers résultats chez mes parents. Et après, je suis allé chez moi pour voir le reste. Et donc, j'ai vu plusieurs personnes dans les rues pour aller au bar, au département pour les petites fêtes des élections.
Et toi, est-ce que tu étais content avec les résultats?
Moi, je suis très content de voir. Oui, parce qu'il faut changer les idéaux des États-Unis à Washington. Très content avec le choix des États-Unis hier soir. Je crois que Barack va changer beaucoup des problèmes aux États-Unis.
Et donc, tu as vu les discours de Obama et McCain après les résultats?
Oui. Les deux, McCain, il est très... C'était une bonne annonce pour lui parce que il faut être unis dans les États-Unis. Moi, j'espère que les États-Unis vont être unis.
On espère que Obama il va faire ce qu'il a dit.
Il a dit que c'est incroyable pour un noir être président. Surtout, c'est environ 4-5 années après Martin Luther King Jr. C'est incroyable. C'est les États-Unis. Il ne dit pas beaucoup pour le futur, les actions proches aux États-Unis. Donc, on va.
Donc, de toute façon, okay. Merci beaucoup, John.
Et bonne journée.
Au revoir.
Donc, on est en direct, je le rappelle. Et quelles sont vos réactions personnelles par rapport à cette élection d'Obama? Pour qui auriez-vous voté? Donc, je m'adresse à vous, Monsieur Alain Deca.
Je suis très content, personnellement. J'étais pour Hillary Clinton pour les primaires. Et j'ai cédé au choix du parti pour voter et militer pour Obama. Je suis très content. Vous savez que les étudiants américains que je suis pour leurs études à Nancy sont de l'université Lewis et Clark College. Lewis et Clark, c'est l'exploration de Grand Ouest, c'est la nouvelle frontière. Et on embarque maintenant à une nouvelle frontière, pas géographique, mais politique. C'est un grand pas pour les États-Unis et peut-être aussi un grand pas pour le monde entier.
Très bien. Et vous, Monsieur Laval?
C'est très content et très intéressé puisque j'ai assisté à la convention démocrate à Denver et j'étais dans le stade des Broncos de Denver où il y avait 90 000 personnes. On a attendu 3 heures pour rentrer. Donc j'ai assisté, j'ai suivi tout ce processus électoral. C'est vrai qu'avec Ronald, dès le départ, dans le cadre des primaires, je ne suis pas américain, je n'ai pas pu voter. Mais on avait un petit débat avec Ronald puisque Ronald était dès le départ pour Hillary Clinton puisqu'il est originaire de New York, alors que moi j'étais plus favorable à Barack Obama. Donc, grande satisfaction, d'autant plus que finalement, il a été en tête durant toute la campagne électorale.
Très bien, je vous remercie. Et donc, avant de continuer notre petit tour d'horizon des élections américaines, je propose un air de musique. On écoute American Idiot de Green Day, du pop-rock de Californie, critiquant la politique menée par George Bush. America.
Pompier. Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Donc vous êtes toujours sur Radio Fadjet avec une émission spéciale d'Europe & Roll. Et oui, vous vous en doutez bien, votre magazine européen se penche sur les élections présidentielles aux États-Unis. Obama l'emporte donc largement. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, François Laval, directeur du premier cycle franco-allemand de Sciences Po à Nancy, et Ronald Lindecker, maître de conférences américain sur le campus.
Donc nous allons commencer pour ce débat général. Tout d'abord, la participation a été record puisqu'elle a été de 68%. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine.
Absolument, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi voir qu'on dépense énormément pour faire voter les gens. Ça coûtait 2,4 milliards de dollars pour la présidentielle. On a mis en place aussi le gouvernement plein de façons différentes pour voter. Que ça soit par la fenêtre de sa voiture, que ça soit dans les supermarchés, que ça fasse par des bulletins de vote anticipé. Et même il y a une loi fédérale qui dit que les gens qui arrivent doivent pouvoir voter, même s'il faut vérifier par la suite l'identité et la vérification des enregistrements.
Il n'empêche, en dépit de ces améliorations, on est toujours surpris de voir les queues de votants aux États-Unis, pourtant 68% seulement. En France, l'élection présidentielle, c'était 82%, près de 83%. Là, pour 68%, ceux qui allaient voter attendaient 2 à 3 heures. C'est vrai qu'ils ne votent pas. Il ne faut pas oublier que c'est Election Day, donc c'est le jour de toutes les élections. Donc on ne vote pas que pour le président, on vote pour son sénateur, pour son représentant, pour le sénateur de l'État, pour le shérif, pour le juge, etc. Mais c'est assez impressionnant quand même de voir le bulletin de vote qui fait des fois pratiquement 1 mètre, enfin 50 à 80 cm de long.
Et quels ont été selon vous les facteurs décisifs dans la victoire de Barack Obama ?
Déjà, un, le rejet de George Bush, 8 ans de parti républicain, c'est vrai que ça l'a beaucoup servi. Deux, le candidat John McCain, même si c'était un indépendant, n'avait pas le soutien total du parti républicain. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une violente bagarre entre McCain et George Bush en 2000, qui en est resté des traces. C'est pour ça qu'il avait pris Sarah Palin pour essayer de récupérer l'électorat conservateur américain. Et puis, ce qui a beaucoup servi à la victoire de Barack Obama, c'est quand même la crise financière, il faut le reconnaître, puisque jusqu'au début septembre, ils étaient au coude à coude, il y avait 10 grands électeurs d'écart, et à partir de la crise financière, on est arrivé à pratiquement des fois 100 délégués, 100 grands électeurs d'écart entre Obama et John McCain.
Oui, j'ajouterais simplement que l'état de l'économie joue beaucoup au moment des élections, à mon sens. Quand le père Bush a perdu, il a perdu justement à cause d'une crise économique moins grave qu'on a vu aujourd'hui, mais il avait une opinion positive de sa présidence de 70%, 60% après la victoire en Irak.
Il faut dire que oui, pour le père et pour le fils, on constate que finalement les deux victoires en Irak n'ont pas servi électoralement, puisque George Bush père a été battu par Bill Clinton en 92 sur le thème économique. Bill Clinton avait axé sa campagne sur l'économie, alors que George Bush père avait axé sa campagne sur la politique internationale et la guerre. Or, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les Asiatiques, ce ne sont pas les Africains qui votent, ce sont des Américains qui sont préoccupés par la situation et par le business aux États-Unis.
Ça, c'est sûr. Très bien. Et pensez-vous que la question raciale a joué un rôle décisif dans cette campagne ou
Dans la mobilisation de l'électorat noir, oui. Et puis dans la mobilisation de l'électorat hispanique, qui était favorable à George Bush, comme il avait été gouverneur du Texas dans les deux premières élections, dans les deux élections de 2000 et 2004, et qui a fui là, le parti républicain avec sa politique d'immigration assez répressive.
Je pense que ça a fait bouger les gens quand même. C'était un moment historique, tout le monde en était conscient.
D'accord, très bien. Et concernant la politique intérieure des États-Unis, qu'est-ce qui va, d'après vous, changer sur le plan économique, de la sécurité sociale, de l'environnement? Peut-être vous, Monsieur Lindecker, qui est
d'abord, américain. C'est difficile à dire. Vous savez, faire campagne, c'est complètement autre chose que le moment où on a le pouvoir de faire ce qu'on souhaite faire. Il faut faire avec les autres, il faut faire des compromises. Chacun avait ses points de vue très, très différents. Mais maintenant qu'il est en pouvoir, il sera en pouvoir à partir du 20 janvier, il faut voir comment il va faire pour faire en sorte que tout le monde soit avec lui. Ça va être un pas à faire.
Il ne faut pas oublier qu'il récupère les États-Unis dans un état assez pitoyable économiquement, que ce soit financièrement, en termes d'emploi, en termes de déficit budgétaire, et que c'est difficile pour un président de faire passer son programme économique. Bill Clinton, en 92, avait été élu sur un programme économique et social et voulait mettre en place un système de sécurité sociale. Et il n'y est pas parvenu. Donc... ça va quand même être difficile pour Barack Obama.
Cela dit, il est très bien qu'il n'a pas eu simplement les côtes est, le côte est et côte ouest qui sont typiquement démocrates, mais il a eu des États partout dans le pays, dans le vote électoral du collège électoral. Il a beaucoup plus qu'il fallait pour gagner. Et ça, c'est une très bon signe pour attirer le peuple vers lui.
Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les États-Unis, c'est un État fédéral, donc il y a 50 États, et en fait, les politiques économiques et sociales, ce sont les gouverneurs, donc ce sont les États qui les mènent. Le président des États-Unis, c'est le commandant en chef, c'est celui qui s'occupe de la défense et des affaires étrangères.
Et justement, par rapport au système américain, donc de la séparation stricte des pouvoirs, le Congrès a un rôle très, très important dans la détermination de la politique, puisque ce n'est pas parce que Barack Obama a décidé de mettre en place une politique que ça sera possible.
C'était le cas de Bill Clinton, qui n'a pas réussi à faire passer donc, sa législation sociale. En dépit, les deux premières années de son mandat, c'est-à-dire qu'en 1994, c'est passé, le Congrès est devenu républicain, mais pendant deux ans, le Congrès était démocrate. Ses deux premières années de mandat, mais il n'a pas réussi à faire voter par le Congrès ses législations sociales.
Merci à nos invités pour cette première partie du débat. Et on continue avec un petit air de musique. Écoutez Danke Bush du groupe munichois Blumentopf, chanson écrite à propos de la guerre en Irak. Donc petite traduction, Merci Bush du groupe Pot de Fleurs.
Sehr geehrter Mr. Bush, ich kann nicht länger schweigen. Ich muss Ihnen schreiben, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Denn ich muss Ihnen beweisen, es gibt doch alte Europäer, die noch solidarischer zu Ihnen halten als Tony Blair. Die keine Show abziehen wie Michael Moore beim Oscarverleih. Den als Botschaft an Sie einfach nur eine Postkarte reicht. Denn ich will Ihnen nicht die Füße küssen wie Angela Merkel. Alles was ich will, ist Sie in Ihrem Handel bestärken. Denn diesseits des Atlantiks halten Sie fast alle für krank. Und unsere Völkerrechtler wollen Sie auf der Anklagebank. Doch die Wahrheit ist, und Sie, Mr. Bush, haben das erkannt, woran zu Europäern offensichtlich mangelt es dann. Denn die Politiker haben keinen Respekt mehr vor Ihnen. Die Presse und die Zeitungen schreiben nur schlecht über Sie. Alle lästern über Sie, aber damit ist jetzt Schluss. Denn hier stehe ich und sage es Ihnen. Danke, Mr. Bush. 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 Danke, Bush. Bush. Dass Sie mit Ihrem Kreuzzug gegen das Böse kämpfen. Denn obwohl ich vielleicht kein besonders religiöser Mensch bin, weiß ich, sollte es sowas geben wie das jüngste Gericht. Dann haben Sie viel getan für so einen armen Sünder wie mich. Denn dass ich endlich voll auf einer Linie bin mit dem Papst, verdanke ich einzig und allein dem Kriegsbeginn im Irak. Danke, Bush. Denn ich hätte auch nie zu glauben gewagt, dass ich einer Meinung sein kann mit dem, was Gauweiler sagt. Und ich bin nicht allein, Herr Bush. Ganz Deutschland ist dankbar. Denn wären Sie nicht so aggressiv, hätten wir Stoiber als Kanzler. Und wenn es eine Frage gibt, in der sogar Herr Schröder konsequent bleibt, ist das nur eins ihrer vielen Verdienste an der Menschheit. Danke, Mr. Bush. Wir brauchen mehr Männer wie Sie, die sich noch aktiv engagieren für die Demokratie. Sie sind der größte Bush. Niemand anderen kann es gelingen, so viele Menschen für den Frieden auf die Straße zu bringen. Danke, Bush. Dafür, dass man wie ich als feiger Pazifist mal wieder stolz sein kann, dass man Kriegsdienstverweigerer ist. Und es ist Ihr Verdienst, dass sich Völker versöhnen mit Deutschland. Keiner tut mehr als Sie für die deutsch-französische Freundschaft. Danke, Bush. Endlich bekommen wir hier eine Ahnung von dem, wofür die Armjacken und die Camouflagehosen stehen. Und es tut gut, die Jugendlichen auf der Straße zu sehen und festzustellen, dass die nicht nur auf die Love Parade gehen. Danke, Bush. Weil es an niemand anders liegt als an dir, dass die sich alle plötzlich so für Politik interessieren. Danke, Bush. Denn jetzt wird endlich öffentlich diskutiert, was sonst im Sicherheitsrat hinter den Kulissen passiert. Jetzt wissen wir, dass es dort üblich ist, sich Stimmen zu kaufen und dass die Welt nicht mehr bereit ist, ihre Lügen zu glauben. Danke für die Show, Herr Bush. Weil wir sonst selten dabei sind, wenn Rumsfeld auftritt mit vom CIA gefälschten Beweisen. Danke, Mr. Bush, für ihre bestechende Logik, mit der es heißt, der Irak sei so schrecklich bedrohlich, dass man ihn angreifen muss, was wiederum kein Problem ist, weil er militärisch so schwach ist, dass man ihn leicht erledigt. Danke, Bush. Endlich wissen wir, was los ist am Golf, dass man dort jahrelang UN-Resolution nicht befolgt.
Danke, dass wir jetzt wissen, dass das schon reicht für den Krieg. Obwohl in Israel seit 30 Jahren das Gleiche geschieht. Danke, Bush. Schließlich hätte sonst ja keiner erfahren, wie offensichtlich da gemessen wird mit zweierlei Maß. Und dort haben sie auch sicherlich gelernt, als cleverer Mensch, wie effektiv man mit Waffengewalt den Terror bekämpft. Danke, Mr. Bush. Ihre Strategen sollten sich schämen, bei so viel Dummheit von intelligenten Bomben zu reden. Auch wenn sie tausendmal sagen, keine davon ging daneben. Es wird niemals sowas wie intelligente Bomben geben. Danke, Bush. 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 Danke, Bush. 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 Danke, Bush. Sag nicht nur ich, weil auch Bin Laden gefällt, wie sie den Hass auf sich schüren in der arabischen Welt. Und Extremisten von Pakistan bis nach Saudi-Arabien müssen ihnen dankbar sein, auf einmal so viel Auftrieb zu haben. Vielen Dank, Herr Bush, denn sie bringen Menschen in den Krieg. Und da geht's nicht um Macht und Öl, sondern um Demokratie. Und obwohl Gore behauptet, von den Demokraten zu sein, sind sie es, der deshalb die Welt von einem Diktator befreit. Was als leuchtendes Beispiel für alle Länder gedacht ist, damit man nirgends den Willen des Volkes noch länger missachtet. Mein Respekt, Herr Bush, weil Mutiger nun wirklich nicht geht. Denn sie sind selbst nicht von der Mehrheit ihrer Bürger gewählt. Fuck you, Bush.
Europe and Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
En Europe, une majorité aurait voté pour Barack Obama, mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Félix a justement parcouru le programme d'Obama, écoutez son analyse.
Le changement attendu par le monde entier arrive enfin, après une campagne décidément bien à l'américaine, avec ses artifices et ses rebondissements. Une nouvelle Amérique se présente, plus jeune, plus juste et plus ouverte, et quelque part plus audacieuse. Plus audacieuse, oui, car elle vient de faire ce qui demeurait incertain jusqu'au bout, malgré les sondages positifs et les soutiens massifs, elle a voté Barack Obama. Ce faisant, elle a tout d'abord rejeté le candidat John McCain, beaucoup trop proche de la doctrine Bush. Les Américains ont ainsi dit non à un système trop injuste et dérégulé, mais aussi non à une politique étrangère unilatérale. Les Américains ont également franchi un grand pas qu'aucun des pays européens a franchi. Ils ont voté pour un homme noir, né d'un père musulman, avec une expérience quasi nulle en politique nationale et un passé totalement atypique. Ils l'ont fait en se concentrant enfin sur le programme du candidat, plus que sur son passé, chose que n'a pas su faire John McCain, qui a attendu jusqu'au bout en effet Bradley, candidat afro-américain qui a perdu les élections de 1982 en Californie, alors qu'il était donné gagnant dans tous les sondages. Cet effet n'est pas arrivé d'abord parce qu'Obama a centré son programme sur les préoccupations des Américains, l'économie en particulier, et qu'il a été beaucoup plus proche de la population que le candidat républicain. Mais au fond, au-delà du symbole qui est déjà une avancée et une rupture exceptionnelle avec le conservatisme des dernières années aux États-Unis, que peut-on attendre du président Obama pour les États-Unis comme pour le reste du monde? Peut-il réellement changer ce pays? Obama va devoir faire face à deux éléments importants qui vont bloquer son action de changement, la politique étrangère et la politique économique. L'obstacle majeur est tout d'abord la dette publique, qui s'élève à plus de 10 000 milliards de dollars. Cette dette devient un réel problème pour l'indépendance financière des États-Unis, qui continue malgré cela à s'endetter. Obama ne propose aucun plan radical pour tenter de contenir cet endettement, comme tant de politiciens, mesure qui serait beaucoup trop impopulaire. Mais l'ensemble de son programme de changement est aussi très cher, comme l'allègement pour les entreprises de 3 000 dollars par personne engagée sur le sol américain. Son programme semble donc un peu éloigné des réalités financières du pays, et on peut même douter qu'il réussisse à le mettre entièrement en place. Le deuxième point essentiel est la politique étrangère. Certes, Obama veut rompre avec une politique unilatérale qui a marqué les États-Unis pendant 8 années maintenant. Il veut mettre fin à cette politique d'abord parce qu'avec les pays alliés des États-Unis, les opérations seront mieux menées et mieux gérées avec plus de moyens. Ensuite et avant tout, certains conflits peuvent être évités si le dialogue l'emporte sur la confrontation armée. Mais le risque majeur qu'Obama devra éviter, c'est de faire un amalgame entre cette nouvelle politique et un pacifisme inactif qui a de toute évidence prouvé ses limites. Je prends l'exemple de l'Irak. C'était une erreur grossière que de s'enfoncer dans ce conflit, mais à présent, les USA ne peuvent le laisser dans cet état. Malgré ces obstacles, ce qui semble déjà certain, c'est que les États-Unis vont renouer avec un rêve américain plus équitable, ce qui est déjà en bonne voie avec tout le symbole d'Obama. Il est impensable que ce pays abandonne sa doctrine libérale pour une société socialiste ou égalitariste, et le libre-échange ainsi que la liberté d'entreprendre resteront toujours le fondement de cette nation. Mais comme dans tous les pays développés, il faut plusieurs fondamentaux, comme par exemple une couverture maladie universelle et un respect de l'environnement. Nous verrons donc bientôt comment le nouveau président va réussir ou non à faire passer les promesses de changement du candidat Obama.
Donc une nouvelle Amérique plus jeune, plus juste, plus ouverte et plus audacieuse, n'est-ce pas une vision trop idéaliste ?
On parle, vous avez remarqué, on parle beaucoup de rêve, du dream. Le problème, c'est que la politique, après, c'est, quand on est président, c'est concret. En fait, c'est un, il faut le reconnaître, Barack Obama, c'est un beau produit marketing qui a été bien vendu, qui a été vendu sur deux grands slogans, « Yes, we can » and « Change ». Bon, une fois que l'on a dit « Yes, we can » and « Change », maintenant, il faut des, effectivement des mesures concrètes. Quand on voit le taux d'endettement des États-Unis, quand on voit effectivement dans le cadre de la mondialisation l'état de la bourse à New York, on peut effectivement se poser des questions sur le devenir de sa politique pour les Américains. N'est-ce pas, Ronald ?
Absolument. Je me rejoins à ce que dit François. Je dis aussi, c'est très important de comprendre que le président américain n'est pas seulement le chef de gouvernement, mais aussi le chef d'État. Il est le symbole du drapeau américain. Et en tant que tel, il incarne la vision de la nation. Et cette vision maintenant de changement, doit être traduite maintenant dans un autre style. Et on peut parler de ça au niveau national, mais aussi international. Il faut un autre style, peut-être moins par la force, plus par le dialogue. On parle de justice, il parle beaucoup de santé, énergie, ce sont des problèmes énormes. Donc en tant que chef du gouvernement, il va avoir des problèmes pour mettre en place tout
ça. Et puis il ne faut pas oublier que pour nous Européens, il ne faut pas oublier que c'est le président des Américains. C'est un Américain. Reprenons l'exemple du contrat d'armement entre Airbus et Boeing pour les avions ravitailleurs de l'armée américaine. L'appel d'offres avait donné la victoire à Airbus. John McCain avait soutenu donc cette décision et Barack Obama avait dit que lui, s'il était élu président, il reviendrait sur cette décision parce qu'il fallait que ce soit un constructeur américain, que ce soit des ouvriers américains qui construisent des avions ravitailleurs. Donc il y aura quand même, il ne faut pas oublier, il défendra les intérêts des Américains avant tout. Ce n'est pas le président de l'Europe, ce n'est pas le président du monde.
Et par rapport aux minorités, pensez-vous qu'il incarne un renouveau donc, du rêve américain plus équitable ?
Oui, mais c'est pas. Je pense que c'est très important. Oui, plus équitable. Il y a des sondages qui disent que les minorités, ou les Américains en général, disent que les minorités ont autant de chances que les autres blancs, à réussir dans la vie. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais il a beaucoup sur son assiette dans ses jours. Il faut qu'il prépare cette transition. Et c'est déjà quelque chose qu'il doit faire dans l'immédiat. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il peut faire pour réunir et pour montrer la chance de tout le monde ? C'est aussi de réunir par rapport aux républicains. Donc, est-ce qu'il va nommer un ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, qui vient des républicains ou pas ? Est-ce qu'il va nommer un noir ou un hispanique dans son cabinet ? Ça, c'est aussi des symboles et des choses à considérer.
Et concernant la mise en œuvre de son programme, donc il a été dit dans le sujet qu'il avait des programmes éloignés des réalités financières du pays. Donc, avec cette dette de plus de 10 000 milliards de dollars, comment va-t-il réussir à changer cette
situation ? C'est toute la question. On le voit bien, là, en France, on a connu une campagne présidentielle où le président Nicolas Sarkozy disait que tout est possible, ensemble, tout est possible. Et on voit qu'après, il y a des décisions douloureuses. Et on est favorable au changement quand on vote. Et après, quand on applique les mesures douloureuses du changement, c'est une autre histoire.
Merci pour vos réactions. Vous êtes toujours sur Europe & Roll, le magazine funky sur Radio Fadjet. On écoute Black President du groupe Nas, chanson parue en 2008 à propos de l'éventuelle présidence de Obama. On the block,
Got us in a box, solitary confinement. How violent are these cops? They need an early retirement. How many rallies will I watch? I ain't got it in me to march. I gotta send me the spark. The game's in the drought. Public housing project cooking up in the Pyrex. My set, my click. Either getting money or running from homicide trial. That's if they ain't died yet. Trying to be rich. Still I'm pledging allegiance. A predicate felon, a ghetto leader. Lending my poetical genius to whoever may need it. I bleed this from Queensbridge. Now living with my feet up, never defeated. So a president's needed. You know these colored folks and Negroes hate to see one of their own succeeding. America surprised us. A little black man got us.
Have been sick, we ain't ready to have a black president. And overseas have been sick, we ain't ready to have a black president.
Yes, we can change the world.
Prez thinking on election night. Is it how can I protect my life, protect my wife, protect my rights? Every other president was nothing less than white, except Thomas Jefferson and mixed Indian blood and Calvin Coolidge. KKK is like, what the fuck? Loading their guns up, loading up mine too. Ready to ride cause I'm riding with my crew. He dies, we die too. Yeah, but on the positive side, I think Obama provides hope and challenges minds of all races and colors to erase the hate and try to love one another. So many political snakes, we in need of a break. I'm thinking I could trust this brother. But will he keep it way real? Every innocent nigga in jail gets out on the pill. When he wins, will he really care still? I feel.
If overseas have been sick, we ain't ready to have a black president. If overseas have been sick, we ain't ready to have a black president.
Yes, we can change the world.
You ain't right, Jeremiah, wrong pastor. In love with a slave master. Silly yours, USA, most brave rapper. Jesse Carjacker, Uncle Tom kidnapper. That's around Bentley Coop off the Richter. It's called life, I pimped her. What? Politics, politics, clan shooter. Deacon for defense, progress producer. Nothing on the stove, a survival booster. Gotta do what we gotta do. We ain't got no governors coming through to help. Anything we need done, we gotta do to self. New improved JFK on the way.
De retour sur Europe & Roll avec François Laval, directeur du premier cycle franco-allemand de Sciences Po à Nancy, et Ronald Lindecker, maître de conférences américain sur le campus. John McCain a souvent été présenté comme un candidat conservateur dans la continuité de Bush. Vous connaissiez son programme ? Pas tellement ? Petite mise au point par Johannes.
McCain est un homme issu du militaire au sens strict du terme. Ses ancêtres étaient des amiraux. Sa carrière scolaire se déroulait presque sans exception dans des écoles situées sur des bases militaires. Il fut ensuite formé à la Naval Academy en tant que pilote d'avion de combat. Enfin, il a participé à la guerre du Vietnam. C'est pourquoi ses messages électoraux se sont concentrés sur cette époque de sa vie. En revanche, sa carrière politique, qui est assez longue quand même, n'y figurait peu. Il est sénateur de l'Arizona depuis 1987. La vision du monde de McCain suit donc des schémas typiquement militaires. D'abord, les idées de McCain en ce qui concerne les affaires étrangères des États-Unis. Le combat contre l'extrémisme islamiste est pour lui le principal défi du siècle. Concernant l'Irak, il s'oppose au retrait des troupes. Au début de la campagne présidentielle, il disait qu'il fallait y rester encore 100 ans. Entre-temps, sûrement dû au coût de l'opération, il demande la présence des troupes américaines au moins jusqu'à ce que la stabilité sociopolitique de l'Irak soit acquise. De plus, il n'exclut pas une invasion de l'Iran si celui-ci n'arrêtait pas sa recherche nucléaire. Quant aux relations des États-Unis avec l'Europe, McCain met l'accent sur les valeurs communes et les intérêts convergents. En d'autres mots, il est en faveur de bonnes relations transatlantiques. Bien qu'il soit républicain, comme George Bush, sa politique se distingue quand même de celle du président actuel. Surtout en affaires intérieures, McCain a un programme électoral assez ambitieux. Appartenant au champ libéral, il a promis de transformer les baisses temporaires d'impôts de George Bush en baisses définitives. McCain est conscient du déficit budgétaire et de la hausse des prix d'énergie. C'est pour cela qu'il veut investir davantage sur le territoire des États-Unis. Son but dans l'approvisionnement des énergies est un partage en trois parts. entière doit être fournie par le pétrole et le gaz. Pour y arriver, il veut lancer de nouvelles recherches de réserves aux États-Unis. Le deuxième tiers doit provenir des énergies renouvelables. Il propose des subventions massives. Enfin, il demande une centaine de nouvelles centrales nucléaires. McCain espère ainsi créer 700 000 emplois. Il faut donc comprendre que John McCain a été énormément marqué par les militaires. Sa vision du monde semble suivre des schémas assez arriérés au lieu d'être innovatrice. Une politique sous John McCain reposerait plus sur la diplomatie que c'était le cas sous George Bush. Cela est d'autant plus probable parce que les États-Unis ont perdu leur statut d'unique superpuissance mondiale, au moins partiellement, suite à la crise financière et du débâcle en Irak.
Alors est-ce que ce sont les schémas typiquement militaires arriérés qui ont porté préjudice à McCain, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam? Est-ce que les Américains avaient peur d'un nouveau conflit?
Arriéré, c'est comme excessif comme terme. Il est vrai que John McCain a beaucoup joué sur son passé de militaire, de héros de guerre, mais il n'avait pas que ça. C'est vrai que ça a été beaucoup caricaturé. Il est vrai que John McCain, le seul moment où il est passé devant Barack Obama dans les sondages, c'était début août, suite à la crise en Géorgie, avec le retour d'un danger de guerre froide avec la Russie, où là les Américains se sont posé la question de savoir, entre Barack Obama et John McCain, qui défendrait le mieux les États-Unis en cas de guerre froide. Et puis après, donc c'est retombé, en tout cas... Je trouve que c'est un peu fort arriéré parce qu'il faut quand même rendre hommage à ce grand personnage politique qui a beaucoup fait dans la vie politique américaine, qui s'est opposé à George Bush sur toutes les questions de torture, de Guantanamo, sur le problème des financements occultes des campagnes électorales. Et hier soir, cette nuit, son discours était assez émouvant, rendant hommage donc au savoir-faire de Barack Obama et appelant les Américains à s'unir derrière le président élu. N'est-ce pas, Ronald? Même si ce n'était pas ton candidat...
Même si ce n'était pas mon candidat, en tant qu'Américain, je peux vous dire que la plupart des Américains connaissaient déjà le nom de John McCain. C'est un héros militaire très connu et connu par aussi son travail de mandat successif depuis 1987, comme votre présentateur a dit tout à l'heure. Il est très respecté, c'est un héros, il a beaucoup d'expérience même à l'international. Il a été opposé à la torture. Et puis l'autre jour, j'ai entendu Madeleine Albright qui disait il faut fermer dans les premiers temps Guantanamo. Et je pense que McCain aurait peut-être fait la même chose, ou dit la même chose.
Est-ce que c'est alors l'héritage de George Bush qui était trop lourd à porter ?
Oui, parce qu'en fait, il s'est opposé à George Bush pendant 8 ans, puisqu'il ne faut pas oublier que John McCain voulait être le candidat républicain en 2000, qui a été battu par George Bush. Il en est resté des traces. Et en plus, John McCain n'était pas un religieux. C'était plus un indépendant, ce qu'on le classerait indépendant. Il est obligé de prendre le costume du républicain conservateur dans le cadre de la campagne. Enfin, malheureusement pour lui, quoi. Il n'était pas très bien dans ce rôle.
Il avait du mal à se distinguer vraiment du président, qui est le plus gros difficulté. Il est connu comme un maverick, comme François a dit. Il disait non parfois au président. Donc il jouait sur ça pour
le début. Mais à la fois, il avait besoin des voix des 25 à 30% de conservateurs américains.
Merci à nos experts, merci Gaëlle d'avoir été parmi nous.
Merci
et on retrouve Irina tout à l'heure pour la suite du débat. Maintenant un peu de musique, Immigrant Punk de Gogol Bordello, un groupe américano-ukrainien, un groupe de punk de New York qui traite de l'immigration aux USA, un sujet plutôt polémique sous George Bush.
Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere.
you go. She's good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her.
Nous revoilà, Europe and Roll sur Radio Fadjet. Et vous, pour qui auriez-vous voté? Marie et Marine l'ont demandé aux Nancéens. Écoutez leur réponse.
Unis et que vous deviez voter aux élections américaines, pour qui voteriez-vous?
Obama, je pense quand même.
Barack Obama.
Obama, sans aucun doute.
Barack Obama.
Pour Obama.
Barack Obama aussi.
Et pourquoi?
Parce que je trouve que ce serait bien d'avoir un noir à la tête des États-Unis.
Je pense que ce sera quelqu'un de bien au niveau de l'égalité des personnes.
Parce qu'il est beau. Il sait ce qu'il a à dire et c'est ce qu'il a à faire. Et puis bon, il faut changer aussi.
C'est l'homme qui représente le peuple. Il est contre le capital. Il sera un peu plus humain que les présidents actuels, voilà.
Puis il faut qu'il y ait des gens nouveaux qui arrivent pour sauver cette Amérique.
Parce que McCain a tendance à faire peur, on va dire. Tout simplement, anti-avortement, pro-pétrolier, pro-guerre en Irak, pro-Bush, un vétéran de la guerre. Donc, ouais, plutôt Barack Obama.
Rien que par rapport au conflit irakien, la différence c'est que Barack Obama, lui, il souhaite un repli des troupes. Donc voilà pourquoi je suis plus Barack Obama.
Oui, donc je voterai évidemment pour Barack Obama. Mais bon, faut pas se tromper, en Europe, on soutient tous Barack Obama. Mais faut savoir que Obama, si on le replaçait en France, ce serait la droite de Sarkozy quand même. Donc il y a un engouement pour les démocrates. Et à mon avis, on sera assez déçus sur ses propres décisions dans le début de son mandat. Parce que il y a une crise économique et puis une situation qui fait qu'il pourra pas répondre à l'espoir de l'Amérique dans le monde. Mais en tout cas, je pense que ce serait un gros changement et qui permettrait une révolution des mentalités. Et va faire complètement renaître le rêve américain. Il arrive d'un père kényan et d'une mère américaine et il devient président. Alors, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui d'avoir ça en France? Je crois pas. Et ça, je crois qu'il n'y a que les États-Unis qui sont capables de donner un rêve aussi puissant.
Est-ce qu'il réussira? Bon, comme toute personne qui incarne le changement, évidemment, il faudrait peut-être lui donner sa chance pour voir si ça va marcher. Il va peut-être susciter plus d'espoir qu'il n'apportera de solution. Donc, je serais là-bas, j'aurais suivi, peut-être que je serais plutôt tenté de voter pour les valeurs un peu traditionnelles de l'Amérique qui sont incarnées par McCain et notamment par sa colistière qui elle est jeune, qui est une femme et qui incarne précisément ces valeurs de l'Amérique qui sont un peu conservatrices, c'est sûr, mais bon, qui, tournées américains, peuvent être considérées comme bonnes.
Est-ce que vous voterez plus pour sa couleur ou pour son programme?
Je sais que la tendance dans la communauté noire est un engouement assez manifeste pour Barack Obama. Mais en ce qui me concerne, je suis encore sceptique.
Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi. Une personne de couleur qui a réussi.
Irina vient de nous rejoindre sur le plateau pour la suite du débat. Bonjour Irina.
Bonjour. Donc les Nancéens auraient voté pour Obama, on l'a vu. Monsieur Laval, pourquoi est-ce que les Français sont-ils tous pour Obama ?
Parce qu'on dit toujours que les Français sont anti-américains ou les Européens sont anti-américains. En fait, le rêve américain est très présent chez les Français. On a besoin de rêver. Et George Bush, ça a été un cauchemar pour les Français et pour les Européens pendant 8 ans. Donc Obama apparaît comme le nouveau rêve américain. Donc effectivement, 80-90% des Européens, par exemple, on a fait une élection à Sciences Po sur tous les étudiants internationaux de Sciences Po à Nancy, 80% ont donné leur voix à Obama.
Même le Figaro est pour Obama. Selon leur programme, à quel parti français correspondraient les démocrates américains?
On ne peut pas plaquer le système politique américain sur le système politique français. D'ailleurs, un des gros mots pour Barack Obama, c'était de le traiter de socialiste aux États-Unis. C'est-à-dire que les républicains traitaient Obama de socialiste. Tout le monde essaye effectivement de récupérer Barack Obama. On sait très bien que le Parti démocrate, de toute façon, a une fraction conservatrice dans le sud et une fraction très libérale dans le nord. Donc oui, il a des positions en matière de sécurité sociale plus proches du Parti socialiste que de l'UMP, mais d'un autre côté, en matière de société, peine de mort, avortement, il est plus proche de l'UMP que du Parti socialiste.
Et est-ce que vous pensez, peut-être Monsieur Lindecker, que le fait que les Européens soient si pro-Obama, est-ce que ça a influencé le vote américain ?
Influencer le vote, je ne sais pas, mais je peux vous dire que pour les étudiants que j'ai qui étaient ici et qui ont vu, qui ont constaté l'intérêt des Européens au sein de Sciences Po, cette nuit blanche, ils étaient très émus et très intéressés de voir combien les gens étaient intéressés par les élections américaines.
Les démocrates étaient fortement intéressés que le monde entier soit pour Barack Obama. Mais c'était une crainte du côté de Barack Obama que les républicains soient renforcés par le fait que le monde entier votait Obama alors que c'était les Américains qui votent dans le cadre de cette élection.
Eh bien, bientôt, on va manquer de chaises sur le plateau. Marine et Souria viennent de nous rejoindre pour une revue de presse. Bonjour.
Bonjour.
Alors Marine et Souria, c'est quoi la une des journaux européens ?
Alors, comme vous le savez, Barack Obama est élu président des États-Unis cette nuit, au terme d'une campagne historique. Les journaux du monde entier se sont intéressés pendant des mois au duel entre les deux prétendants à la présidence. Et ce matin, tous célèbrent plus ou moins à l'unanimité la victoire du candidat démocrate. Pour des raisons de décalage horaire, les journaux d'aujourd'hui ne sont pas en mesure de publier les résultats. Cette revue de presse s'appuie donc plutôt sur les sites internet et non pas sur les unes. Nicolas Sarkozy, tout d'abord, a adressé ses félicitations à Barack Obama en déclarant qu'en le choisissant, c'était, je cite, « le choix du changement, de l'ouverture et de l'optimisme qu'a fait le peuple américain ». Cette déclaration rejoint largement les points de vue et les principaux titres de la presse européenne et mondiale.
Le Figaro s'exclame « Mr. President » et salue la victoire du premier noir américain à devenir président. Il souligne aussi que cette élection a connu la plus grande participation depuis un siècle, ce qui prouve qu'Obama a concentré tous les espoirs et les rêves de changement du peuple américain en lui. El País le traduit en ces termes. Obama culmina el sueño de cambio. Il rejoint ainsi l'opinion du journal El Mundo qui titre Obama cambió el color de la historia. Le nouveau président a su attirer l'attention des plus jeunes des communautés afro-américaines et hispaniques. La Süddeutsche titre America auferstanden aus Ruinen, qu'on pourrait traduire par « l'Amérique renaît de ses cendres », ou plutôt « de ses ruines ». Les États-Unis, en choisissant Obama, auraient, je cite, « accompli un acte d'assainissement et de libération de leur pays ». En effet, le Monde, il Corriere della Sera, la Frankfurter Allgemeine Zeitung et le Times titrent tous « le changement est arrivé ».« Il cambiamento è arrivato »,« der Wandel hat Amerika erreicht »,« change has come », pour reprendre les termes du discours du nouveau président.
La Tribune de Genève, quant à elle, titre malicieusement « Barack Obama, un black à la Maison Blanche ». En effet, le rêve américain et le rêve de Martin Luther King ont fusionné. Barack Obama est le premier président noir des États-Unis, ce qui suscite une émotion incroyable à travers le monde.
Oui, c'est vrai. Jesse Jackson, célèbre militant pour les droits civiques, en a même pleuré. Les journaux américains, mais aussi européens, comme le New York Times, le Mindwalk luxembourgeois ou encore les dernières nouvelles d'Alsace insistent sur l'extraordinaire avancée des mentalités qu'un tel résultat démontre. L'Est républicain résumera par « Obama, yes » et déclare que, je cite, « les Américains ont voté en masse pour préserver leur part de rêve ».
Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Tous les dirigeants étrangers ont adressé leurs plus chaleureuses des félicitations au président nouvellement élu. Le président du Kenya, Kibaki, dans un élan de joie et pour honorer les racines kenyanes de Barack Obama, a même été jusqu'à déclarer le 6 novembre comme étant un jour férié. On peut néanmoins regretter l'attitude de la Russie. Medvedev profite de son discours sur l'état de la nation pour déclarer qu'il espère une collaboration poussée entre son pays et le nouveau président des États-Unis, dont il ne mentionne même pas le nom. Il annonce dans la foulée sa décision de positionner de nouveaux missiles dans l'Europe de l'Est. Étrange manière de participer à la liesse générale qui, toute la nuit dernière, a rassemblé une population américaine et du monde entier.
Merci Marine et Zouria. On l'a vu, les Européens sont pour Obama. Ils espèrent apparemment que les relations transatlantiques s'amélioreront sous Obama. Est-ce que ce sera le cas ? Et est-ce que Obama sera plus que McCain un garant de meilleures relations transatlantiques ?
Alors, on va dire transatlantique, vous avez parlé du Kenya, plus transatlantique finalement entre Amérique et Afrique, puisque Barack Obama ne connaît pas l'Europe. Hein, donc, c'est la première fois quand il est allé à Berlin. Donc, de toute façon, derrière, il y a tout le staff démocrate qui est favorable à une relation transatlantique. Mais la politique internationale des États-Unis ne changera pas véritablement, sauf sur des aspects très visibles comme l'intervention en Irak ou en Afghanistan.
Et Obama a déjà annoncé que les Européens devront s'engager davantage sur la sphère internationale. Est-ce que ce sera le cas et qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Ça signifie simplement que ça avait un petit peu choqué la classe politique allemande, puisque lorsqu'il avait fait son discours à Berlin, tout le monde l'avait applaudi quand il avait expliqué qu'il faudrait partager le fardeau. Ça veut dire envoyer plus de troupes allemandes, françaises, italiennes, espagnoles en Afghanistan, pas en Irak, mais surtout en Afghanistan.
Merci à nos experts. Un peu de musique maintenant pour laisser à nos invités le temps de souffler. Je propose Hurricane George de Lul Troop, paru après les élections de Bush pour son deuxième mandat. Lul Troop, un groupe de Göteborg en Suède.
Okay. Thank you. Okay, okay. Can we get the cameras right here in front?
We got a live. Uh-huh.
We're about to go live in 3, 2, 1. And as we transmit live here from the White House at this landmark moment in time, voters have turned out by the million to decide who gets on. 4 more years as the people decide to let the leader of the free world stay and preside. And word on the hill is that a safer America is created by us invading shakier areas. Now the commander-in-chief is guaranteed we'll be prosperous. Business will not yield to the takers of hostages as we embark on a quest to oppress the poor. The biggest democracy said yes to 4 more.
Four more years in the golden era. It's gonna be no more fears of the global terror. It's gonna be nine for an eye till they totally blind. That's why me and half our nation voted was right. Cause you never know when they step up on your porch. You gotta be prepared, buckled up and ready for war. And on the TV, they issued out a warning. So I report on people with foreign origins.
I know we've seen a lot of bolts of lightning striking on the people and it's so, so frightening. And it looks like the clouds are rising, boy, the doors ain't
a world of bomb threats. While I murder monsters, we shape and mold in the process of policing our Congress of warmongers. I can't be upset. I got no beef with poor thieves who do dirt to survive. I guess the police on my streets was on a different vibe. I used to blow trees for shorties trying to hustle to provide. But now the contract is signed and I'm killing my own kind.
It's just another 4 more years for me to pour more tears and watch my people suffer daily for your foreign affairs. I was born in a war-torn area, Lord knows where, but my shoulders have borne more terror than all the dead. It's sad to see the person you gave mandate greet my folks with a surface-to-air handshake, all because the giver wants the cash and the check while Europeans are preoccupied with bachelor rap.
Nous revoilà pour la dernière ligne droite de notre émission spéciale élections américaines. Sur le plateau, toujours François Laval, directeur du premier cycle franco-allemand de Sciences Po à Nancy, et Ronald Lindecker, maître de conférences américain sur le campus.
Obama a peu d'expérience en politique étrangère. Est-ce que c'est un désavantage par rapport à McCain ou est-ce que McCain serait mieux placé pour affronter des crises majeures ?
Je pense que pendant les 2 années de cette campagne de longue haleine, il a montré sa capacité de voir clair, de s'exprimer clair, de montrer qu'il a une vision du monde. Et maintenant, il va s'entourer des experts et il va prendre leur avis en considération. Et je pense que...
Deux exemples concrets récents. Est-ce que Bill Clinton avait une expérience en matière de politique internationale en 92 ? Et pire, est-ce que George Bush avait une expérience de politique internationale en 2000, puisqu'il n'était même pas capable pendant la campagne de citer le nom du président du Pakistan ou d'autres chefs d'État ?
Obama est souvent considéré comme pacifiste. contrairement au militaire McCain. Est-ce que c'est vrai? En quoi est-ce que cela pourrait influencer ses rapports à l'Iran?
Pourquoi pacifiste?
Je ne sais pas. Pacifiste, peut-être personnellement, mais même s'il est personnellement pacifiste, dans sa fonction, je ne sais pas s'il est pacifiste, mais dans sa fonction de chef d'État, de chef de gouvernement et son obligation, commandant-chef, il est commandant-chef.
Il faudra qu'il protège les États-Unis, qu'il s'occupe des troupes américaines hors du territoire américain. De toute façon, on peut être difficilement pacifiste quand on est président de la première puissance militaire au monde.
Et quels seront les rapports à l'Iran, alors, des États-Unis ?
Oh, là, on peut se douter qu'il va privilégier le dialogue, le débat, pour que les mollahs iraniens reviennent à la table de la discussion.
Ce qu'il y a pour l'Iran, c'est que beaucoup de monde pense que c'est un pays monolithique, on peut dire. Mmh. Ce n'est peut-être pas forcément le cas. C'est peut-être même un bon moment d'ouvrir vers le dialogue.
Il ne faut pas oublier l'influence d'Israël aussi, parce qu'Israël est très très important dans le secteur et fait pression effectivement sur les États-Unis par rapport au dossier iranien. Donc Barack Obama ne pourra pas décider tout seul aussi.
Et même si Obama souhaite avoir un dialogue, le dialogue n'est pas forcément quelque chose de gentil ni facile. Les dialogues peuvent être aussi très dur, très difficile pour trouver des points communs.
Mais c'est vrai que ce n'est pas un va-t-en-guerre comme George Bush.
Et si on parle du conflit israélo-palestinien, justement, qui n'est toujours pas résolu, Obama est allé en Israël et il s'est montré particulièrement pro-israélien. Est-ce que, à cause de ses origines musulmanes, il a particulièrement besoin de montrer son soutien pour Israël ? Est-ce que cela aura des influences sur sa politique israélo-palestinienne ?
Déjà, il n'a pas d'origine musulmane. Il est né dans une famille américaine, afro-américaine, donc kényane et américaine. Il n'était pas converti à la religion musulmane.
Bon,
par rapport, si vous dites, il avait un comportement pro-israélien, tout simplement parce que les juifs sont très importants électoralement dans une élection présidentielle. Mais simplement, lui pourra comprendre justement, comme il vient de différentes communautés, le problème du dialogue intercommunauté. Je vais laisser peut-être la parole à Ronald.
Non, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, monsieur Lindecker, monsieur Laval.
C'est fini pour Europe & Roll aujourd'hui. Un grand merci à nos invités François Laval et Ronald Lindecker d'avoir été avec nous. Sans oublier Jean-Yves à la technique et Patrick, notre rédacteur en chef. Rendez-vous dès dimanche prochain pour les temps forts du débat. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions, nous faire part de vos commentaires ou de vos questions sur fadjet.net ou europeandroll.eu. Passez du côté rock'n'roll de l'Europe. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À dimanche prochain, 13h30 sur Fadjet.